France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une alimentation qui fait de plus en plus l'objet de films documentaires. En témoigne depuis quelques années une sélection thématique au plus grand festival international du film documentaire en France, le FIPADOC, dont l'édition 2025 se tiendra à Biarritz du 24 janvier au 1er février. Cette année, 4 films ont été retenus. Florilège.
Bon, bah allez, aujourd'hui, c'est dimanche, on va se faire un petit plaisir quand même, là, on va se faire un petit bœuf bordelais. Ah oui, pour changer. Bourguignon, bon, c'est connu, mais avec une bonne bouteille de Bordeaux, ça sera des arômes différents. Donc.
Cuisiner, c'est un métier de geste. C'est la répétition, l'expérience. C'est quelque chose qui se réitère, c'est quelque chose que l'on apprend de soi-même. C'est le souvenir de la grand-mère, c'est pareil. Parce que les assiettes comme ça, elle est capable certainement d'en manger 15 ou 20... sur la planète. Mais la tarte aux pommes de votre grand-mère, elle est unique. C'est ça qu'il faut trouver. Et la recherche de cette excellence.
Non, c'est du beau cochon. Là. C'est du beau cochon. Là, ça fait plaisir, ça.
Quand tu me dis que t'as un projet en bio, mais c'est juste miraculeux. C'est ce que j'ai pas osé faire, moi, en fin de carrière. Je te vois arriver avec un projet en bio, je dis, mais c'est fantastique. On va transmettre le témoin à quelqu'un qui va faire... Ce qu'on n'a pas fait et qu'on pense qu'il faut faire.
Nous recommandons le jeûne intermittent à presque tous les patients. Il y a très peu de contre-indications au jeûne intermittent. Nous conseillons systématiquement un jeûne quotidien de 14 heures après un jeûne thérapeutique ici.
10e jour de jeûne pour Stéphane, plus que 4 jours sans nourriture, et jusque-là, tout va bien.
Extrait dans l'ordre de L'incroyable trésor de Michel Chasseuil de Romain Dibiec, de Yannick Aleno La traversée de Frédéric Guélaf, de Sur la paille d'Éric Guéret et de Le jeûne, enquête sur un phénomène de Sylvie Gillemant et Thierry de Lestrade, les 4 films sélectionnés cette année, sélectionnés par vos soins, Anne Georget, puisque vous êtes la présidente du FIPADOC et documentariste par ailleurs. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci. Sylvie Gillemant et Thierry de Lestrade, vous êtes avec nous en studio. Merci à vous. Bonjour. Et Éric Guéret, le réalisateur de Sur la paille, est avec nous à distance depuis la Bretagne. Comment est née, Anne Georget, la sélection Goût du Doc, du fait qu'il y a de plus en plus de documentaires culinaires ou liés à l'alimentation et qu'il fallait que le FIPADOC s'en empare?
Alors, je crois que l'idée a germé, elle n'est évidemment pas de moi, lorsqu'un de mes films a été sélectionné à la Berlinale, qui avait une sélection non compétitive, qui s'appelle Culinary Cinema. Et comme les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvée dans cette aventure du FIPADOC, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien qu'on monte une sélection sur les films, sur la gastronomie et l'alimentation, parce que je suis convaincue qu'on raconte énormément de choses, de l'intime, de l'histoire, de la géographie, de la politique, à travers la nourriture.
Ah bah je vous le confirme, cette émission est là pour le prouver. La première sélection a eu lieu en 2021, si je ne m'abuse.
Alors, on avait prévu 2021, on a donné juste un avant-goût avec un film en 2021 et ça a vraiment commencé à partir de 2022 parce que 21 était une année très particulière, Covid, elle a eu lieu en juin parce qu'en janvier les salles étaient fermées. Donc, on avait repoussé cette idée du goût du doc à 2022.
Malgré tout, vous regardez donc depuis 2021 un certain nombre de films pour en sélectionner quelques-uns seulement. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques tendances ou des constantes ou des changements dans les sujets, dans la manière de traiter les sujets depuis 3-4 ans, disons?
Je crois qu'il y a toujours une sorte de colonne vertébrale avec les portraits de grands chefs.
Cette année, Yannick Aleno,
par exemple. Les années précédentes, on a eu un portrait d'un grand pâtissier, on a eu un chef coréen formidable. Voilà, donc ça, c'est un peu, j'allais dire, l'évidence, on va dire. Et ensuite, chaque festival qui a une couleur gastronomique y ajoute sa touche. Et c'est vrai que moi, le côté, j'allais dire, politique de
citoyen.
Manger...
Citoyen. Le FIPADOC, c'est un festival qui se dit citoyen.
Oui, en tout cas, on se vit comme ça. J'espère qu'on l'est véritablement. Et je pense que Goût du Doc, c'est une manière de... C'est un peu une déclinaison d'une autre sélection qu'on a, qu'on appelle Impact, qui sont des films engagés sur les droits de l'homme, la justice sociale, l'environnement. Pour moi, Goût du Doc, c'est un peu un prolongement un peu plus festif de toutes ces questions brûlantes qui concernent les humains et la planète.
Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les critères de sélection ? Ça veut dire par exemple que vous privilégiez le sujet à la forme ?
Non, mais c'est vrai que c'est une section non compétitive, donc peut-être que là ça nous donne un peu plus de liberté pour aller vers des films qui sont moins stricto sensu des films dits de festival, et qui pour autant ont tout à fait leur rôle à jouer dans le public auquel on s'adresse.
Thierry de Lestrade, Sylvie Gillement, Éric Guéret, est-ce que vous considérez que vos films, alors je répète, hein, Le Jeune, Enquête sur un phénomène pour les premiers, et Sur la paille, qui est un film qui suit un producteur, un éleveur de porc bio en Bretagne qui vit mal, on va y venir. Est-ce que vous considérez que vos films sont des films engagés? Je montre les guillemets avec mes doigts, mais effectivement les auditeurs, les auditrices ne l'entendent pas. Sylvie Gillement.
Oui, je pense que nos films sont engagés, oui, clairement.
Thierry Lestrade.
Ils sont engagés parce que comme le disait très bien Anne, l'alimentation c'est politique aussi. Moi, je vois, je vis aussi une partie de l'année dans le Gers. Je vois les paysans autour de moi qui ont transformé leur ferme en ferme bio il y a quelques années, qui sont en train aujourd'hui de repasser en conventionnel. Pourquoi ? Parce que ils ne sont pas aidés assez. Et aujourd'hui, la manière de se nourrir, et on verra bien avec le jeûne, c'est aussi une manière de se nourrir, mais la manière de se nourrir, elle est politique. De quoi va-t-on vivre demain ? Qu'est-ce qu'on va ingurgiter ? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre corps ? Je pense que la question est très politique. Et s'y intéresser, c'est un engagement depuis toujours, avec Sylvie.
Arrêtons ce cirque. Qu'est-ce qu'on fout là, en fait ? C'est pas normal. Moi, je me pose des questions. On est quoi ? On est des clowns pour eux ou quoi ? On est là pour faire bonne figure, pour dorer la façade ? Enfin, moi, je me pose des questions. Moi, j'invite tous les élus, tels qu'ils soient, petite échelle, grande échelle, de nos territoires, à aussi prendre leurs responsabilités. Car il y a des paysans qui prennent leurs responsabilités. Et ces paysans-là sont même pas suivis aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on est en une impasse. S'il n'y a pas une pression énorme de la part de nos élus, tels qu'ils soient, on n'y arrivera pas. C'est évident. Les paysans sont en train de s'éteindre à petit feu. Et dans l'indifférence la plus totale. Donc voilà, donc faut rien lâcher, je suis d'accord. Sauf qu'à un moment donné, arrêtons ce cirque. Merci à vous.
Un extrait de Sur la paille, façon de vous donner la parole, Éric Guéret, sur la dimension engagée de votre film. Éric Guéret, juste en 2012, vous étiez le réalisateur de La mort est dans le pré, qui avait reçu le prix du 20e anniversaire du festival, un autre festival international, cette fois du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. C'était un film qui portait sur les conséquences sanitaires de l'utilisation des pesticides chez les agriculteurs. Et là, avec Sur la paille, vous suivez Olivier, qui est un éleveur de porc bio en Bretagne, un homme qui a réalisé son rêve en ouvrant sa propre exploitation en 2020 et qui va de déconvenu en déconvenu. Pourquoi ce film ?
Comme vous l'avez dit, c'est vrai que j'ai fait plusieurs films sur l'agriculture biologique et je pensais un peu naïvement que le combat était gagné, que l'agriculture biologique était maintenant sur la voie et qu'on allait pouvoir la développer massivement. Malheureusement, j'ai découvert que depuis 3 ans, elle est frappée par une très grave crise et qu'elle est même menacée pour certaines filières. Et donc, voilà, ce film s'est un peu ancré dans la colère de découvrir ça. C'est un énorme pas en arrière que les agriculteurs bio ont vécu. Et donc, j'ai filmé la faillite d'un homme, d'une certaine manière, et à travers lui, la faillite d'un système. Olivier a monté une magnifique porcherie bio, avec tout ce qu'il a pu y mettre de cœur et de savoir-faire. Sa banque lui donne 1 an pour arriver à s'en sortir ou tout perdre. Et donc, j'ai passé cette année en immersion à ses côtés.
Comment l'avez-vous rencontré, Olivier ?
Ben, je l'ai rencontré parce qu'au départ, je cherchais un agriculteur qui se convertisse pour passer en agriculture biologique. Et puis, on m'a dit, mais Eric, ton film ne peut pas exister, il n'y en a plus, parce qu'il y a une crise terrible qui frappe la bio. Et donc, ben, je me suis mis à chercher un agriculteur qui était dans la crise. Et j'ai enquêté en Bretagne. Je voulais que ce soit en Bretagne parce que c'est une région qui m'est chère. Je suis originaire de Bretagne. Et puis, c'est une région qui est une énorme région agro-industrielle en France, avec une industrie du porc qui est très délétère pour l'environnement. Et je voulais vraiment m'ancrer dans cette région et parler de cette industrie et des excès de cette industrie. Voilà. Donc, j'ai rencontré Olivier, et puis il m'a ému tout de suite. Il a accepté que je le suive, il a accepté que je passe un an à côté de lui. Et voilà, le film, je suis très, très satisfait du film, et je le lui ai montré hier, et maintenant on a envie de se battre ensemble pour le promouvoir.
Vous parlez d'émotion, de fait, il est particulièrement émouvant. Cet Olivier, c'est un homme à terre, hein. C'est un homme qui avait un rêve, et ce rêve s'est transformé en cauchemar. On peut vraiment dire qu'il survit, parce qu'il n'a vraiment rien, il est à bout. Et au fur et à mesure du film, on le voit dire, et on le comprend, que la fatigue, que le stress pèse sur sa vie quotidienne, pèse sur sa famille. Heureusement, il a une femme assez exceptionnelle, je dois le dire, mais on le sent à bout et ça fait mal au cœur, Anne Georget. C'est vraiment un des points très forts du film, c'est cet homme qui, malgré tout, continue de se battre.
Et quelque chose que je trouve absolument remarquable, c'est qu'il n'apparaît jamais comme géniard dans le film. Il y a l'amour de ses petits cochons, il n'est pas dans la plainte, il est dans le labeur, et moi j'ai beaucoup de respect pour tous les laborieux. Et je me lève tôt et je m'occupe bien de ma terre, de mes animaux, etc. Moi, il y a une séquence qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est la séquence où il réalise que il a dépassé un quota. Alors j'ai pas tout compris, mais et une partie de sa production, qui est 100% bio avec toutes les exigences qu'on découvre dans le film, finalement va être payée au plus bas du prix de la viande de la moins bonne qualité. Et donc il avec sa calculette, il attendait, je me souviens plus, 16 000 euros, et il y en a 8 qui arrivent. Et cette scène m'a mis les larmes aux yeux, parce que quand je vois tout ce travail qui n'est pas reconnu. Et c'est là aussi que Festival Citoyen, c'est important, parce que ça veut dire qu'il faut éduquer aussi le consommateur, de se dire que la viande bio, oui, elle est un peu plus chère que les autres. Et il y a des bonnes raisons à ça, on les voit dans le film.
En 2023, dans le film, on l'entend, hein, c'est 19% plus cher.
Voilà. Donc, il y a des bonnes raisons à ça, il faut les comprendre. Peut-être que ça veut dire qu'il faut manger un peu moins de viande, mais manger de la bonne viande, ça peut que nous faire du bien à nous, consommateurs, et à soutenir ces gens qui mènent une agriculture et un élevage respectueux de la terre qui nous porte, on l'espère, encore longtemps.
Éric Guéret ?
Bah oui, il y a quelque chose qu'il faut quand même pas oublier. C'est vrai qu'à travers lui aussi, je reviens sur les fondamentaux, de l'agriculture biologique. C'est que les gens pensent toujours que quand on mange bio, c'est parce qu'on a quelque chose de sain dans son assiette. C'est vrai. Mais il faut pas oublier que quand on mange bio aussi, c'est le seul modèle qui permet de produire sans détruire la biodiversité, sans tuer l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides. Et donc, c'est le seul modèle qui permet vraiment de préserver la biodiversité. Donc, quand vous achetez quelque chose de bio, vous vous faites du bien à vous-même, mais vous faites surtout du bien à la terre dans laquelle vous vivez. Et le paradoxe aussi qu'interroge le film, c'est comment se fait-il que le seul modèle qui permette vraiment à long terme de pouvoir continuer à vivre sur Terre, hein, parce que c'est ça dont il s'agit, quand on voit l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui, on sait qu'à un moment, ça va pas être viable. Le seul modèle qui permette de continuer à vivre sur Terre, aujourd'hui, est un modèle qui a été abandonné par tous. Et voilà, on part de ce paradoxe. Alors, je parlais de colère tout à l'heure, il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'espoir, parce que finalement, Olivier, il est toujours vivant. Il va continuer. Je pense que la crise va finir par être derrière, que le consommateur revient et commence à prendre conscience, je pense, des enjeux de ce geste citoyen qui est d'acheter bio, pas tout le temps, mais au moins un petit peu, faut que chacun soutienne. Et donc voilà, on finit quand même sur un message d'espoir, Mais il ne faut pas lâcher cette idée que ce label, c'est le seul vrai label éco-responsable.
Vous parliez de colère, Éric Guéret. Dans votre film, vous suivez Olivier et sa famille, mais on voit aussi son employé qui parle beaucoup dans le film. Et on voit d'autres agriculteurs. Il y a par exemple Rewan.
J'ai un sentiment aussi d'énervement fort contre un petit peu une contradiction entre ce qu'on nous demande pour sauver la planète, ce que je dois dire à mes enfants pour leur dire que je leur réserve un meilleur avenir, et puis la réalité du politique et puis du consommateur, parce que aussi à un moment donné tout le monde doit prendre ses responsabilités. J'ai peur. J'ai peur parce que ça va pas du tout dans le bon sens. Et que j'ai deux petites de moins de 2 ans à la maison et que en fait ça le fait pas et ça va pas le faire. Et que l'eau elle est toujours de moins en moins potable, que l'air est de moins en moins respirable. Et que je vois les conventionnels à côté bien tourner et avoir le grand sourire, ça me pose problème. Donc allons-y, de toute façon c'est la fin du monde, alors faut y aller quoi. Et moi, je ne repartirai pas en conventionnel. C'est clair et net. Cantor Mervel et Guédebézan Sautré, quoi. Plutôt la mort que la souillure.
Voilà, ça c'est pour la dimension politique du film, puisque on entend dans ce film sur la paille, Éric Guéret, que les producteurs bio sont abandonnés par les pouvoirs publics, que la filière est moins soutenue que l'agroalimentaire. Il y avait pourtant une loi, la loi Egaline, qui prévoyait de 20% de bio dans les collectivités, mais elle n'est pas respectée. Alors c'est un énorme débouché. Aujourd'hui, ils ne sont même plus sûrs de pouvoir nourrir leurs propres bêtes. Donc, on voit bien que les solutions sont à la fois dans les mains des politiques et dans les mains des consommateurs et des consommatrices. Éric Guéret.
Oui, absolument. Bon, cette loi Egalim, c'est vrai que c'est la loi sur laquelle toute la filière s'est structurée. Elle a été votée en 2019 et elle promettait 20% de bio dans la restauration collective. C'est des milliards à disposition et cette loi a été votée, elle n'a pas été appliquée. Donc il y a eu un abandon de l'État, on peut le dire très clairement, par rapport à l'agriculture biologique. Il y a eu un changement de cap. Après, la question qu'on pose aussi dans le film, c'est finalement à qui sert cette faillite. Il faut quand même rappeler que l'agro-industrie et l'agrochimie ne gagnent pas vraiment d'argent avec l'agriculture biologique, parce qu'ils n'achètent pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, très peu de médicaments, et la plupart des fermes ont une part d'autonomie sur leur terre. Et donc, voilà, la question qu'on pose, c'est finalement à qui profite ce crime.
Voilà, c'est ce film, donc, sur la paille, qui sera projeté à Biarritz, Sophie Padoc, dimanche 26 à 14h15, et le 31 à 9h30, et qui est prévu en diffusion sur France 2, fin février, dans Infrarouge, au moment du Salon de l'Agriculture. Nous mettrons les références sur notre page Internet.
Maintenant, la mode, c'est le jeûne.
A trendy new weight loss method has been getting a lot of buzz lately, and it is called intermittent fasting. I'm dying to talk to you about this.
What happens when we fast for 40 days? Take a look.
Simple effet de mode, sans fondement scientifique, voire dangereux. Ou vraie solution pour soulager et guérir des maux créés par notre mode de vie. Depuis une dizaine d'années, des chercheurs de plus en plus nombreux explorent les effets thérapeutiques du jeûne et révèlent des mécanismes inédits du fonctionnement du corps humain. Ils s'attaquent aux maladies chroniques qu'on pensait irréversibles, repoussent les limites du vieillissement et révolutionnent la conception de nos rythmes de vie.
Ces 10 dernières années, grâce à de nombreuses études cliniques randomisées, on a vu plus de progrès dans la recherche sur le jeûne que probablement au cours des 2000 dernières années.
Rien que ça, ça c'est la bande-annonce de votre film Sylvie Gillemont et Thierry Lestrade, Le jeûne enquête sur un phénomène. Il faut préciser que vous aussi, vous étiez déjà auteur en 2012. Alors je dis auteur parce qu'il y a eu un livre et un film. Il y avait un film qui a été diffusé sur Arte qui s'appelait Le jeûne, une nouvelle thérapie pour l'interrogation. Et vous étiez d'ailleurs, Thierry Lestrade, venu en parler ici même le 10 janvier 2021. C'était accompagné d'un livre qui a été réactualisé comme le film maintenant. Donc pourquoi rouvrir le dossier quelques 15 ans plus tard, Sylvie Gillemont?
Là, on a enlevé le point d'interrogation. Et c'est vrai qu'en fait, le film a été diffusé 8 fois sur Arte, avec beaucoup, beaucoup d'audience à chaque fois. Au total, je crois que c'est 10 millions, donc c'est quand même pas mal.
Considérable.
C'est, donc il y a eu un véritable engouement pour le jeûne. Et en même temps, force est de constater qu'il n'y a pas non plus encore eu des jeûnes encadrés médicalement en France, contrairement à l'Allemagne, comme on montrait dans le premier film. Et l'avantage de travailler pour une chaîne franco-allemande, c'est de pouvoir justement filmer ce qui se passe dans ces deux pays-là. Et donc, c'était nécessaire d'y revenir parce que, bah oui, il y a un engouement, il y a de plus en plus de recherches, ça bouge pas beaucoup du côté des autorités de santé, et même, on a l'impression qu'il y a un petit raidissement, et on commence à entendre des petites voix que rien ne s'est prouvé, que le premier film d'Arte finalement était un peu daté, qu'il faudrait... Et des médecins français qui essayent de sécuriser la pratique, qui ont fondé une académie médicale du jeûne, finalement, ils ont aussi du mal à être entendus. Donc on s'est dit, bah, peut-être qu'il faut faire un second film pour actualiser, poser le débat, alimenter la réflexion et peut-être ouvrir les yeux et les oreilles de certains qui n'ont pas encore connaissance de ces études.
Bon, vous posez le débat, effet de mode ou trésor thérapeutique, clairement le film y répond, Thierry Lestrade.
Il y répond, et pour y répondre, nous sommes passés du côté allemand, puisque en France, voilà, Sylvie en parlait, il y a pas mal de frilosité. En Allemagne, en revanche, le jeûne est totalement accepté, et le jeûne est pratiqué donc depuis les années 20. On trouve 6 hôpitaux universitaires qui proposent des cures de jeûne remboursé par la sécurité sociale à des malades, et plus des cliniques privées que notamment nous avons filmé dans la plus ancienne clinique privée allemande. Et le jeûne, et depuis toutes ces études cliniques que ces Allemands ont fait, ont montré que le jeûne était efficace contre les maladies métaboliques comme l'hypertension, comme le diabète, tous les problèmes de la glycémie, aussi contre les maladies inflammatoires, l'arthrose, arthrite, polyarthrite, aussi l'asthme, et aussi le jeûne, et ça ce sont les toutes dernières recherches, ont montré qu'il y a un effet de régénération cellulaire. Par exemple, quand vous commencez un jeûne, vous mettez en route un processus qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? Ça vient du grec. Ça veut dire...
C'est un programme d'auto-nettoyage.
Voilà, se manger soi-même, littéralement. Et donc, le corps, l'organisme, en recherche de nourriture et d'énergie, se tourne vers lui-même et à l'intérieur des cellules, va prendre tous les éléments, tous les débris cellulaires qui ont été, ce sont des déchets, au fur et à mesure de l'âge, comme ça, que nous produisons, il va les recycler pour créer de l'énergie. Et donc, avec du vieux, avec du débris, il nettoie et il refait de l'énergie. Et ça, c'est extraordinaire, c'est le miracle de la nature.
Et puis peut-être,
oui, peut-être qu'on peut ajouter que, en fait, c'est jeûner, c'est vrai, c'est arrêter de manger, mais c'est arrêter de manger peut-être des choses qui viennent de l'extérieur, mais c'est se nourrir de soi-même, c'est-à-dire que c'est notre corps. En fait, on est les descendants d'hommes et de femmes qui ont survécu à la privation de nourriture grâce à cette capacité extraordinaire à mobiliser des réserves internes. C'est-à-dire que notre corps, pour fonctionner, il a besoin de glucose. Au bout de 24 heures, les réserves sont épuisées. Et bien là, il y a un mécanisme extraordinaire qui va se mettre en route, c'est un autre mécanisme, donc Thierry a parlé de l'autophagie, mais c'est le passage en céto, c'est-à-dire qu'on va être capable...
Le switch métabolique.
C'est ça. Et ce switch métabolique, ça consiste à finalement, on n'a plus de carburant en glucose, mais nos muscles, notre cerveau a absolument besoin de carburant pour fonctionner. Et bien là, notre corps, il va mettre en route un autre mécanisme, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des cétones, des corps cétoniques, à partir de nos réserves de graisse.
Qui ont longtemps eu mauvaise réputation, mais c'est en train de changer précisément.
Oui, c'est ça, parce qu'on a découvert que ces cétones, c'était finalement un super carburant qui a des propriétés anti-inflammatoires. Et c'est ce qu'on a pu montrer dans le film. C'est un film scientifique, hein, on se base vraiment sur des recherches pointues.
Et pas qu'en Allemagne, vous êtes allé en Italie, aux États-Unis, même en France, parce que quand même en France, ça commence à bouger.
Voilà, non mais c'est ça, voilà, c'est ça. C'est qu'en France, au CHU de Saint-Étienne, Pierre Croisy et Magali Vialon, en collaboration avec la clinique Boehringer en Allemagne, ils ont en fait passer des IRM à 32 jeûneurs qui ont suivi un jeûne de 12 jours. Donc ils avaient 250 calories par jour, le jeûne Boehringer. Et la question centrale, c'était qu'est-ce qui se passe pendant un jeûne au niveau des organes? organes, le cœur, le foie, le cerveau, les muscles. Est-ce que ça a un effet délétère sur ces organes? Et ça, ils ont fait des biopsies virtuelles.
Parce que c'est l'une des explications de la frilosité des médecins français.
Oui, hein. Mais en plus, on peut la comprendre. Moi, je comprends que...
Bah, surtout que c'est contre-intuitif de se dire qu'on va aller mieux sans manger.
Bah, complètement. Il faut mettre sa tête à l'envers, comme disait le fils d'un grand pionnier russe qu'on avait filmé dans le premier, Nikolaïev. Et c'est vrai que faut mettre sa tête à l'envers, mais en tout cas, donc eux, ils ont mené cette étude. La question, c'était qu'est-ce qui se passe au niveau des organes? Ils ont fait passer des IRM avant le jeûne, à la fin du jeûne, un mois après, quatre mois après, et découvert que finalement, tous nos organes s'adaptent très bien à la privation de nourriture et que finalement, le blocage, c'est vraiment un blocage mental. C'est pas le corps, il sait faire, et on est les descendants d'hommes et de femmes qui ont survécu à la privation de nourriture.
Alors le film suit un homme de 50 ans qui a la maladie du foie gras. C'est joli, même si pour lui c'est pas très rigolo. Et on imagine ce que c'est. Et il part faire un jeûne de 14 jours en Allemagne dans la fameuse clinique du Berlinden. Et en parallèle, vous interrogez tous les deux des scientifiques du monde entier pour bien comprendre le phénomène. Sachant qu'on distingue quand même, Thierry Lestrade, le jeûne thérapeutique, dont peut-être l'effet le plus révolutionnaire ces dernières années, c'est dans son rapport au cancer, avec la figure de Walter Longo, et le jeûne intermittent, le jeûne dit de confort, qui est quand même autre chose.
Oui, le jeûne intermittent, c'est un jeûne que l'on va pratiquer chaque jour. C'est sur le rythme de 24 heures, et à distinguer donc du jeûne thérapeutique qui va durer plusieurs jours. Le jeûne intermittent, se base sur des études là aussi très sérieuses sur les rythmes circadiens. Donc, c'est quoi les rythmes circadiens? Les rythmes circadiens, ce sont des horloges internes que l'on a dans le cerveau, dans chaque organe, et qui nous commandent, qui sont issues aussi de l'histoire de l'évolution, et qui nous commandent quand se nourrir, quand jeûner, quand dormir, quand rester éveillé. Et il faut, les chercheurs ont trouvé qu'il fallait suivre ces rythmes pour être dans un bon état métabolique, pour être en forme, si vous voulez. Et un chercheur qu'on a filmé, dont on montre les expériences, là, a pris deux groupes de souris. Si on a le temps, je vais lire rapidement. Deux groupes de souris. Un groupe se nourrissait ad libitum, quand elle le voulait. L'autre groupe de souris ne mangeait que sur 10 heures de temps dans la journée, sur les 24 heures. Eh bien, elle mangeait la même chose, et de la nourriture très grasse, très sucrée, mauvaise nourriture. Eh bien, le groupe qui pouvait manger quand elle le voulait, les souris sont devenues obèses et très malades. Et le groupe de souris qui ne mangeait que 10 heures sur la journée de 24 heures était en pleine forme après. Donc c'était une révolution en matière nutritionnelle.
Ce qui faisait conclure aux chercheurs, c'est que désormais, peut-être qu'il vaut mieux compter les heures que les calories.
Absolument. Et mieux vaut éviter de tomber malade que de soigner par médicaments, qui est l'une autre des conclusions de votre film. Passionnant, le débat est ouvert. Un film qui finit à Tahiti, où l'obésité, le diabète sont des problèmes de santé publique. Et donc, l'enjeu, c'est de faire de ce jeûne thérapeutique, ou de ce jeûne même intermittent, un enjeu de politique de santé publique, y compris chez nous, en France. À regarder donc le jeûne Enquête sur un phénomène qui sera donc au FIPADOC samedi 25 janvier à 20h30, le 29 à 9h45. Sur arte.tv, il est déjà disponible à partir de demain jusqu'au 24 mars. Sur Arte tout court, il sera diffusé le 25 janvier à 22h25 et il est en livre à paraître le 23 janvier en coédition La Découverte Arte Édition, le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique. Quant au FIPADOC, Anne Georget, c'est du 24 janvier au 11 février à Biarritz.
Au 1er février.
Qu'est-ce que j'ai dit? Au 1er février, pardon. Et c'est ouvert au public. De toute façon, les bonnes dates seront sur notre page, puisque vous n'avez pas forcément tous et toutes eu le temps de noter tout ça. Un grand merci à vous d'être venus à l'émission. Tout sera sur franceculture.fr pour télécharger aussi cette émission sur l'application Radio France. Avec aujourd'hui, Séam Boutata en coulisses, Taïsia Froidure et à la prise de son, Olivier Arnay. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.